Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. Le président Macron a donc décidé de prendre la parole à 20h ce soir, de sortir de son silence après le second tour des législatives. Le chef de l'État qui a reçu toutes les formations politiques, elle est à la recherche d'un improbable consensus à l'Assemblée nationale. Alors que vous le savez, il n'a pas obtenu la majorité suffisante pour gouverner. On va rejoindre notre envoyée spéciale Élodie Huchard qui se trouve à l'Élysée. Élodie, elle va nous expliquer dans un instant pourquoi cette allocution solennelle va tenter de déminer la crise politique qui menace le début du quinquennat. Mais d'abord, écoutons la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. Rien n'est exclu, selon elle. Tout est même possible.
Il faut s'attendre à des annonces ou simplement une philosophie globale.
Est-ce que la sortie de blocage est en vue?
On y travaille ardemment.
Ça veut dire que le gouvernement national, c'est tout est
possible. On y travaille ardemment à sortir du blocage. Ce qu'on veut, c'est que cette Assemblée puisse travailler et qu'on puisse travailler pour les Français le plus rapidement possible. C'est toujours important que le président s'exprime quand il a des choses à dire et qu'il l'estime nécessaire.
Voilà, tout est possible, Gilles Mintré. Est-ce que, une démission d'Emmanuel Macron est possible ou pas?
Non, une démission d'Emmanuel Macron est très peu probable, même si, comme on l'entendait tout à l'heure, c'est probablement la première réaction des Français, qui est de dire, quand même, quand on a... Parce que c'est une défaite, ces élections... Bon, c'est la caractéristique du monde politique français, c'est qu'on ne démissionne jamais après un échec. Dans d'autres pays, c'est systématique. Ça paraît naturel à la plupart de nos concitoyens,
c'est pas
le cas de nos politiques. Non, ce soir, il faut s'attendre à ce que, bien sûr, Emmanuel Macron fasse preuve un peu d'un exercice d'humilité. On sait qu'il sait le faire. Il l'a fait après les Gilets jaunes. Qu'ensuite, il rejette la faute sur les autres en disant il y a un blocage, comme a dit Olivier Grégoire. On a envie de dire, quel blocage ce qui ressort des élections législatives, c'est que les Français ont aussi voté pour des partis qui avaient des programmes politiques, qui avaient aussi des députés qui n'étaient pas des godillots. En fait, En Marche a été sanctionné sur un bilan en 5 ans de n'avoir pas de programme, pas de vision et pas d'autonomie. Donc, blocage, il n'y aura peut-être pas, puisque, on l'a dit... On va peut-être chercher des majorités de projets. Y a un parti, les Républicains, qui a tout de suite dit qu'il ne voudrait pas bloquer les institutions, qui serait constructif, mais à condition que ça soit...
Qu'on respecte son programme,
sur leur ligne. Oui, mais leur projet. Bien, ça tombe bien, leur ligne est celle qui a été largement reprise pour le peu de programme qu'il y avait pour la présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc il y a probablement là de quoi passer.
Pour aller jusqu'au bout.
Karim a raison, il va se poser très vite la question de savoir quel est le Premier ministre pour conduire ça. Et j'ai envie de dire, évidemment, Elisabeth Borne vient de la gauche. Si on veut gouverner, si on veut faire passer des majorités de projets avec LR, c'est compliqué. Puis surtout quelqu'un qui n'a pas de culture parlementaire. Et on aurait presque dit, finalement, Édouard Philippe, en 2022, ça aurait été un bien meilleur choix qu'Elisabeth Borne, qui aurait peut-être été un très bon choix en 2017. Donc là, il y aura un peu d'ajustement à faire.
Régis Le Sommier est avec nous, vous êtes grand reporter. Moi, je pense que les Français sont très heureux de la situation, en réalité. Ils l'ont voulu, ils l'ont souhaité, ils l'ont voté. Ils voulaient que le président n'ait pas la majorité, ils voulaient qu'il soit obligé de composer, et ils voulaient qu'il agisse. Et qu'ils agissent dans leur intérêt.
Je pense que oui, ce message est tout à fait exact. Je pense aussi à le fait que l'élection d'Emmanuel Macron était un peu spéciale. On a un peu toujours tendance à l'oublier, à dire... Lui-même l'a oublié. Vous m'avez élu largement, maintenant ça y est, c'est reparti, etc. Et du coup, il a enjambé l'élection, il n'a à nouveau pas fait campagne et les Français l'ont sanctionné. C'est-à-dire qu'il l'a enjambé et les Français lui ont fait un croche-pied, en fait. Et donc, il s'est cassé la figure. Et en fait, le problème, je pense, globalement, et c'est là où ça va être intéressant ce soir de regarder ce qui va se passer. Le discours d'Emmanuel Macron est peut-être le plus important de ce début de quinquennat, plus que on va mettre de côté l'histoire du tarmac ou devant les soldats, parce que c'était dans un contexte spécial. Et puis le président avait choisi de faire campagne à distance avec Jean-Luc Mélenchon. C'était peut-être pas très habile, et visiblement ni pour l'un ni pour l'autre ça n'a porté chance. Mais je crois que moi j'aime pas cette expression fend de l'armure, on l'utilise assez souvent, mais c'est vraiment ça. Je pense que est-ce qu'il est capable de voir les Français et de dire vraiment j'ai compris, ou est-ce que ça va rester un président prisonnier de sa culture, prisonnier de son éducation
en même
d'une
temps,
certaine façon
et
incapable et aveugle face aux souffrances des Français qui sont aujourd'hui réelles. Je regardais l'autre jour, il y a quelqu'un qui expliquait, quelqu'un qui disait, qui était, je ne sais plus dans quelle émission, mais je pense que c'était sur France 3 Région, qui expliquait qu'il avait voté Marine Le Pen, il était en train de faire son plein à cause de la question de l'essence.
Tout simplement parce que pour lui, c'était vital et qu'il a même envisagé d'arrêter de conduire sa voiture. Donc, quand on en est là, sur des questions aussi primordiales, ça veut dire que d'abord, un, le RN et Marine Le Pen ont touché une corde sensible en parlant du pouvoir d'achat énormément, que Jean-Luc Mélenchon s'y est aussi intéressé à capter un peu ça aussi, cette fibre sociale, et que finalement Emmanuel Macron là-dessus n'a rien compris. Donc on va voir ce soir s'il a compris quelque chose.
Est-ce qu'il est capable, Alexandre Devecchio, de fendre l'armure, comme le disait Régis Sommet, et de faire comprendre aux Français que cette fois-ci, il a compris leur message? Ou est-ce qu'il n'en est pas capable?
Bah, si vous voulez, il est bon acteur, le président de la République, mais il ne suffit pas, en fait, de faire comprendre, de faire de la pédagogie. C'est un peu la limite de la politique actuelle, de celle qui a été menée par Emmanuel Macron, mais même par ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'on fait des choix politiques très clairs, souvent gestionnaires, souvent européens. On appelle ça les réformes, et on dit, en fait, les Français, ils ne comprennent pas les réformes, il suffit d'être pédagogue pour qu'ils acceptent. Non, en réalité, il y a quand même des choix politiques différents, des visions différentes qui s'affrontent. Donc maintenant, il faut qu'il essaye. Il y a une assemblée nationale avec différentes visions, et son travail, c'est de, avec ces différentes visions, d'essayer de trouver un chemin, un consensus, peut-être de réconcilier justement cette France avec des gens très différents, qui est très très fracturée. Donc il suffira pas d'un discours. Ensuite, il sait s'exprimer, mais un discours ne suffit pas. Maintenant, il faut des actes politiques.
Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Karim Zerebi, qu'est-ce qu'il peut dire le Français? Le président.
Je pense que son verbe ce soir tournera autour de l'humilité et des preuves de cette humilité. La première preuve, j'ai entendu votre message. Vous ne m'avez pas donné une majorité absolue. J'en prends acte. Il sera difficile de gouverner. Et pour ce faire, j'ai tendu la main aux oppositions. Et je le ferai durant tout mon quinquennat. Et je vous le dis, je veux que le pays avance. Je veux le réformer. Mais je ne pourrai pas le faire seul. Et je ne souhaite pas le faire seul. Donc, je proposerai des alliances de projets aux forces politiques en présence qui seront au sein de l'Assemblée nationale. Je ne réitère pas aujourd'hui ma volonté de gouverner tout seul. Et je pense que le président va vouloir ce soir poser des actes d'humilité et gagner un peu de temps. Parce que tout ça est quand même très frais. Donc, dimanche, les Français ont voté. Nous sommes mercredi, ça fait 3 jours. Et effectivement, il a refusé la démission de sa première ministre, Elisabeth Borne. Il veut gagner du temps. Il est dans la discussion, à la fois avec des proches, Édouard Philippe, François Bayrou, qui sont des politiques et qui composent aussi la Force Ensemble, la Force Renaissance, avec Horizon d'un côté, le Modem de l'autre. Mais il va nouer des passerelles avec peut-être des personnalités issues que des Républicains. Et il va essayer, le président, de prendre la température au cours de ces prochains jours. Même s'il est à l'étranger, il le fera à distance, il missionnera les uns, les autres, pour faire en sorte de savoir si, à un moment donné, il pourra proposer des majorités de projets. Et je crois que la question de la démission, elle ne vient pas à l'esprit du président.
Il ne peut pas partir ce soir,
Karine. Le concernant, c'est, à mon avis, une question qui est inenvisageable. Les Français ont élu Emmanuel Macron président de la République. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils ne lui ont pas donné une majorité absolue à l'Assemblée. Et c'est de ça dont il doit prendre acte. La vraie question qui se pose au président, c'est à un moment donné, sera-t-il obligé de dissoudre l'Assemblée? C'est cette question qui sera posée, pas sa démission à lui, c'est la dissolution de l'Assemblée. Et cette question, elle sera d'autant plus posée qu'il va entamer le quinquennat en tentant de gouverner avec des majorités de projets. Si ça passe, il poursuivra. Si ça ne passe pas, le pays sera ingouvernable. Bon. Et face à un pays ingouvernable, il sera obligé, dans quelques semaines, dans quelques mois, d'ici la fin de l'année, à dissoudre. Nous n'en sommes pas encore là. Il parlemente aujourd'hui. Il parlemente, ça tombe bien. Il parlemente avec des parlementaires qui ont envie d'exister.
Allez, que peut dire Emmanuel Macron tout à l'heure à 20h? On le vivra évidemment en direct sur CNews et sur Europe 1. Et on en débat dans un instant. Dans Punchline, à tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec deux pointures. François-Olivier Gisbert, bonsoir. Oula. Journaliste, écrivain, vous signez un éditorial assassin dans le journal Le Point, les vacances forcées du président Gribouille. On va en parler à la lumière de l'allocution du président Macron à 20h. Julien Drey, fine lame aussi de la politique, fondateur du mouvement Réinventé.
Vieille lame, vieille lame.
Oui, mais fine lame aussi.
Bon, peut-être.
Une vieille lame et une fine lame. Juste un mot, là. Emmanuel Macron va prendre la parole à 20h. Le président Gribouille, vous lui en collez une assez forte, François-Olivier. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu les élections législatives ? Parce qu'il a joué avec le feu ? Parce qu'il a mis en place le piège dans lequel il est tombé ?
Oui, c'est exactement ça. C'est, il n'a pas fait campagne. Bon, il n'a pas fait campagne pour la présidentielle, et ça a été un net succès. D'ailleurs, aidé en cela par la guerre en Ukraine. Et puis, il a dû se dire, bah, puisque ça a marché, je vais le refaire. Il n'a pas fait campagne aux législatives. C'était une campagne sans campagne, c'est-à-dire sans président, qui n'était pas là. D'ailleurs, on n'en avait que pour Mélenchon. Matin, midi et soir, on bouffait du Mélenchon à la télé, il y avait lui, vous avez les temps de parole, entre 50 et 70%. Et je crois qu'il n'y a que CNews et TF1 qui se tenaient bien quand on regarde les temps de parole. Absolument. Mais c'était complètement dingue. Bon. Et donc, il fait pas campagne. Et là, évidemment, c'est la catastrophe. Avec d'ailleurs, en plus, cerise sur le gâteau, il nomme à Matignon... Enfin, la dernière personne qu'il fallait mettre pour mener une campagne.
C'est-à-dire une techno de gauche.
Bah, c'est-à-dire, non, le rôle du Premier ministre. Enfin, c'est pas tout à fait ça dans la dérive des dernières années, et surtout avec Macron. C'est, il faut un Premier ministre qui existe. C'est-à-dire, regardez la Ve République, si vous revenez aux origines, il y a le président qui préside, c'était De Gaulle, et qui s'occupait donc de la France, notamment de la France à l'étranger. Et puis, il y a le Premier ministre qui gouverne. C'était vraiment bicéphale, et il gouverne. C'est dans la Constitution, le chef du gouvernement, il gouverne. C'est pas le président qui gouverne. Or là, Macron, il préside, il gouverne, je pense qu'il fait d'autres encore. C'est-à-dire, en fait, il ne fait pas grand-chose, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait, ce n'est pas la répartition des tâches normales. Et il met donc à Matignon quelqu'un qui n'est pas capable de mener une campagne électorale. On l'a vu, dès que c'est une apparition, par exemple, le soir des élections, c'était totalement lunaire, enfin, c'était presque comique, on aurait dit un film, oui, un vieux film comique.
Julien Drey, qu'est-ce qu'il peut dire, le président? Non,
d'abord, une remarque. La constitution que décrit François-Olivier, c'est ça? La réalité, ça n'a jamais été ça.
Ah non, ah non, non, non.
La seule
non,
fois. 30 non, secondes non. 30 secondes. Non, non. Calme.
Allez-y, Julien Drey.
C'était pas ça. Sous De Gaulle, ni sous Pompidou. Ni sous Pompidou, cher Julien Drey. Ni sous Pompidou.
Non, non. Sous Pompidou, j'étais pas là. Bon, quoi, j'étais tout gosse. Mais donc, ce que j'ai vu, moi, en tous les cas, en tant que parlementaire, etc., la seule fois où il y a eu cet équilibre-là, en fait, c'est la cohabitation entre Chirac et Jospin. Où, effectivement, il y a une sorte de parlementarisation de la Ve République, et le gouvernement gouverne, et Jacques Chirac regarde tout ça.
Bon, ça va vous faire du mal aussi, mais Mitterrand-Rocard, c'était comme ça aussi. Il y avait une cohabitation.
Il se mêlait de tout quand même, Mitterrand.
Qu'est-ce qu'il peut dire aux Français ce soir, Julien, pour raccommoder les choses?
Moi, je crois, si vous voulez, que c'est toujours ça. Dans la politique, des fois, on veut rationaliser des choses qui ne sont pas totalement rationnelles. Effectivement, France a raison, il n'a pas fait campagne. Mais je crois qu'on a un président qui a gagné la présidentielle et qui était fatigué. Et qui s'est pas occupé de cette législature.
Il faut qu'il change de métier, qu'il prenne des vacances.
D'accord, mais bon, on ne change pas des métiers aussi facilement que journaliste. Quand on est président de la République. Excusez-moi, Serge France.
L'argument, il est fatigué, le pauvre, non, ça tient pas.
Allez-y, développez un peu votre raisonnement.
Non, bon. Non, mais il aime polémiquer comme ça, alors bon.
Je vous demande qu'est-ce qu'il peut dire.
Alors là, je pense qu'il est en train de reprendre la main tout doucement, parce qu'il retrouve ses marques, si je peux me permettre ça. Là, maintenant, il va dire, moi, je prends toutes les forces politiques à témoin, je suis pour que la France se rassemble, voilà les propositions que je fais, tout est ouvert, etc. Et vous voyez bien que depuis deux jours, les forces politiques sont ennuyées. À chaque fois qu'ils sortent de l'Élysée, on va être dans l'opposition, mais on va pas être totalement dans l'opposition. On sait pas, ça va pas être facile. Mais je pense qu'il est en train progressivement de se représidentialiser et donc effectivement de mettre les forces politiques dans une situation compliquée.
Est-ce qu'il peut nous faire le coup de « je vous ai compris », François-Olivier Gisbert?
Oui, il va le faire.
Je vous ai compris.
Bon, attendez,
on va changer. Je vais changer.
D'ailleurs, regardez les réactions très violentes déjà qu'on entendait dans la rue sur pourquoi il a pas viré Elisabeth Borne. Ben, surtout, il faut pas la virer maintenant, parce qu'il faut monter quelque chose derrière. Mais c'est évidemment qu'elle est condamnée. Elle peut pas tenir plusieurs semaines. Mais donc, est-ce qu'il va dire autre chose que « je vous ai compris » Ça m'étonnerait, parce que pour l'instant, il est obligé de faire ça. Et « je vous ai compris », c'est très compliqué, parce que ça veut dire que c'est quoi les Français? Qu'est-ce qu'ils ont donné comme message? Vous voyez très bien. Ils ont dit d'abord, ils voulaient Macron comme président, il est légitime. Il a été élu, il est légitime, il est élu pour 5 ans. Mais après, ils ont réfléchi et ils ont dit, mais non, mais c'est quoi ce truc? D'autant plus, excusez-moi, là je vais repolémiquer à nouveau, mais quand on voit la campagne dès la présidentielle, c'est une campagne à droite, en agitant le chiffon rouge, enfin rouge ou brun si vous voulez, du Rassemblement National, attention l'extrême droite, attention l'extrême droite, il est quand même très à droite, et brusquement, avant législative, il décide, comme ça, son bon plaisir, voilà, il bascule complètement vers la gauche, et il fait une campagne à gauche, en agitant, évidemment, avec la complicité des médias qui nous faisaient bouffer du Mélenchon 24 heures sur 24, là, le danger de l'extrême-gauche, c'est-à-dire de la NUPES. Et ça ne peut pas marcher, c'est-à-dire, il faut de la cohérence en politique. Et le « en même temps », ça peut aller sur les dossiers, mais ça ne va pas sur les grands sujets, c'est absurde. Dans ce pays, il y a une gauche, il y a une droite, il y a un centre. Enfin, il faut se tenir, surtout quand on est président. Ce n'est pas juste à la petite semaine. Et là, on a eu un président à la petite semaine depuis 6 mois.
On va écouter Adrien Quatennens de la France Insoumise qui, lui, s'exprime, et après vous répondrez, mais qui s'exprime sur ce que peut dire le président ce soir aux Français.
Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Il est à peu près clair qu'il n'a pas de majorité pour appliquer ce sur quoi il s'est engagé lors de la présidentielle. Je crois qu'il a sans doute compris que le 24 avril, beaucoup de Français ont utilisé plus exactement le bulletin de vote à son nom. Non pas pour dire « oui, nous sommes d'accord avec vous », mais pour éviter le pire, c'est-à-dire la fracture est proposée par l'extrême droite, et qu'il a compris que le résultat des courses de dimanche, c'était qu'il n'y avait pas cette majorité politique dans le pays pour appliquer ce programme. Donc que va-t-il dire? Je ne sais pas vous le dire.
Julien Drey, à la fois sur Adrien Quatennens, c'est ce qu'a dit François-Olivier Gilberg auparavant. D'abord Quatennens.
Non, moi je suis toujours satisfait quand François-Olivier dit qu'il faut une gauche et une droite. Parce que pendant des années, il m'expliquait qu'il n'y avait plus de gauche. Bon, maintenant, il trouve qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait une gauche. Merci. Bon. C'est juste une parenthèse polémique sur les années qui viennent.
Et sur ce qu'a dit Olivier,
on n'est pas obligé de le croire, mais bon c'est... Revenons
à ce qu'on a entendu.
Non, c'est bon. Mais c'est intéressant ce que dit M. Quatennens. Il dit lui-même, je ne sais pas ce qu'il va dire. Parce que, et c'est en ce sens-là que ça renvoie à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire pour l'instant, c'est les partis politiques qui sont en difficulté maintenant, parce que la question est la suivante, c'est soit ils essayent de le mettre dehors, donc ils le paralysent à l'Assemblée nationale, mais ils savent que le risque, c'est qu'à ce moment, c'est lui qui, finalement, disposant du bouton atomique, c'est-à-dire de la dissolution, peut les mettre dans une difficulté en prenant le pays à témoin, en disant, vous voyez, ils ont paralysé, ils m'ont empêché de faire, moi je voulais, c'est pas possible. Donc ils sont sur une marge de manœuvre difficile. En fait, il s'est remis dans une situation de cohabitation. Et là, François-Olivier Gilbert va goûter ça, parce qu'il adore les périodes de cohabitation, parce que c'est ça qu'il sait que c'est ça qui le fait travailler. Parce qu'il va pouvoir faire des papiers, des explications, etc. On est dans une période de cohabitation.
La cohabitation a commencé, François-Olivier Gisberg, ça y est. Mais entre qui?
Je ne suis pas sûr, parce que les Français, ça ne correspond pas tout à fait à l'esprit de Macron. Hein, on voit bien que c'était Jupiter. Bon, Jupiter, de temps en temps, il redescend sur Terre, mais c'est vrai qu'il a une vision assez verticale de la politique. Ça lui a coûté cher dans l'affaire des Gilets jaunes. Et c'est pas son genre de beauté. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il peut s'en sortir. D'abord, il va dire « je vous ai compris », parce qu'on sait ce qu'il va dire. « Je vous ai compris, j'ai entendu le message, je vous ai écouté ». Sinon, c'est la porte tout de suite, donc il peut pas faire ça.
Il peut partir,
péter.
À votre avis ou pas?
Moi, je pense qu'il peut partir dans l'hypothèse que... Julien Drey vient de donner, parce qu'il dit, bon, il peut toujours dissoudre et ça fait peur au parti. Dans la situation actuelle, il peut pas dissoudre et ça fait pas peur au parti. S'il dissout aujourd'hui, il se retrouve avec 150 députés RN et peut-être 120 députés de la France Insoumise et de la NUPES. Et c'est pas possible pour lui. C'est pas possible. Et il risque quand même gros. Et c'est vrai qu'il peut dissoudre, mais dans un an ou deux, et peut-être plutôt dans 2 ans, le temps que l'opinion change, que les choses sont... Et c'est même pas sûr, parce que vous voyez bien qu'il a un gros problème avec LR. LR, oui, c'est quand même... Mais oui, c'est 61 députés, il faut bien oublier. Il faut surtout savoir que ce sont les derniers, c'est les derniers des Mohicans, ce sont des irréductibles, ce sont ceux que la Macronie n'a pas encore pu acheter et qu'elle essaye. Alors c'est vrai qu'il y a quelques oiseaux encore qui circulent, qu'on peut toujours prendre dans les filets, par exemple, je pense à Jean-François Copé, mais en dehors de lui, ou Guillaume Larrivé qui a été battu, mais en dehors de lui, il n'y a plus personne, et ce sont des gens voilà, qui pensent que l'avenir va se faire sans Macron. Attention, Julien, Drey, qui est un formidable analyste, on est d'accord là-dessus, mais le gros problème de Macron, c'est son dernier mandat. Le problème du dernier mandat, c'est qu'on ne fait plus peur. on fait plus peur et qu'on prépare déjà l'élection d'après. Et surtout, il n'y a pas de colonne vertébrale, je crois que c'est ça. Et les gens l'ont bien compris et ils peuvent commencer maintenant, enfin les gens dans les partis en tout cas, ils peuvent essayer de reprendre la main en l'empêchant de faire ce qu'il a envie de faire, puisque de toute façon, comment dire, la réalité du macronisme, vous savez très bien, c'est un peu la cervelle sur les murs. Et s'il se retrouvait en face d'une force solide, avec un vrai projet, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas de projet, hein, excusez-moi, dit qu'il y a un projet, je ne sais pas ce que c'est.
Mais LR ont un projet, LR ont un projet.
Oui, bien sûr.
La NUPES aussi et RN aussi.
Il n'y a pas de programme, et donc, comment dire, ça, c'est très compliqué pour lui, quoi, parce qu'on ne voit pas comment, s'il passe en force, c'est pour faire quoi.
La dissolution, ce n'est pas demain matin, il n'est pas stupide. La dissolution, elle est inscrite dans un comportement politique qui va essayer de conduire, moi je n'ai pas dit que ça va marcher, mais il va essayer de piéger l'ensemble des forces politiques en faisant que lui, c'est pour ça que je dis, il va jouer des institutions, il va se représidentialiser, excusez-moi, genre moi j'essaie de faire avancer le pays, moi j'essaie de rassembler le pays, et vous avez des partis politiques qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, qui ne pensent pas à l'intérêt des Français ou des Françaises, etc. C'est comme ça qu'il va essayer de se positionner. S'il arrive à faire cette démonstration-là, alors il cherchera la faille et il fera la dissolution en disant « redonnez-moi les pouvoirs pour que je puisse avancer ». C'est pas sûr qu'il va y arriver, mais cette tentative va exister. Alors elle existe d'autant plus, et c'est en ce sens-là que j'ai une approche peut-être commune avec France, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de force politique cohérente en face de lui. Mmh. Voilà. Parce qu'il y a peut-être le dernier carré des Mohicans.
DLR. Ils existent quand même.
Oui, mais qu'il n'y a pas de cohérence.
Non, je suis pas d'accord.
Vous avez peut-être tout d'un coup des yeux de chimène pour ce dernier carré.
Non, j'ai pas dit ça du tout. Très polémique.
De ce qu'on sait, c'est qu'il y en a la moitié qui regarde du côté de la Macronie, parce que.
Vous prenez vos rêves pour des réalités.
Non, je prends rien pour des réalités. Je prends simplement ce que me raconte un certain nombre d'amis qui me disent des choses dans les couloirs qui ne diront pas forcément à la télévision, mais ça discute.
Mais la Macronie, je suis désolé, vous en parlez.
C'est pas la Macronie, moi.
Là, on est dans le dernier mandat. Ça n'est plus. La Macronie n'a plus la force d'attraction d'avant.
Mais vous avez.
C'est fini.
Le problème des LR, c'est la chose suivante. Soit ils pensent qu'ils ont. Il y a une logique politique qui doit aller, d'un certain point de vue, qui a une cohérence, c'est celle que défend Jean-François Copé, celle que défend en privé Nicolas Sarkozy, c'est celle que défend François Baroin, et c'est celle que défend toute une série de députés LR.
C'est là que vous avez du mal à les citer. Vous aurez du mal à les citer, ça.
C'est ça, c'est vrai.
Je suis pas un dénonciateur et un délateur. Bon,
c'est l'Union nationale que défendent.
Oui, c'est une forme d'Union nationale. C'est une dire. Déjà, on fait un pacte. On est trop proches les uns des autres pour ne pas faire ce pacte. C'est ce qui essaye de concocter Édouard Philippe et qui travaille, à ça. C'est pas sûr qu'ils vont y arriver. S'ils n'y arrivent pas, ils joueront l'autre carte, c'est-à-dire la division des partis, etc. Donc la cohérence des LR, je la vois pas bien, parce que pour une grande partie, ils seront d'accord avec ce que proposera Macron. En face de lui, il a de l'autre côté un pôle NUPES dont on va découvrir la complexité politique.
Ça a commencé déjà.
La complexité. Et il manque justement la course de vitesse engagée. Il faudrait que se restructure une force réformiste qui puisse présenter une alternative politique à Macron. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas là, parce qu'elle s'est détruite dans les semaines qui viennent de s'écouler.
François-Olivier Gisbert.
Alors, ça ne se voit pas encore à l'Assemblée nationale, mais vous avez vu qu'il y a une sorte de front révolutionnaire maintenant en France. C'est tout à fait nouveau, c'est la grande information aussi de ces élections législatives qui n'a pas encore été traitée par les médias, mais qui est absolument fascinante.
Alors, ça rend d'ailleurs... Moi, je n'aurais pas vu un front révolutionnaire.
Vous, parce que je ne vous mets pas dans les médias.
Il est où, France?
C'est très simple. On a vu dans ces élections, mais c'est transparent, pourquoi Christophe Castaner est battu, deviné, avec un candidat de la NUPES qui fait 26%. Ou son réserve, qui n'a pas de réserve. Comment peut-il être élu au deuxième tour? Ce sont les forces du RN qui sont arrivées. Et ils se sont fait la courte échelle les uns les autres.
Donc, France Insoumise, NUPES, se sont fait la courte échelle.
Bien entendu. Il y a 2 millions de voix, c'est ce qu'on a calculé, qui sont baladées des uns aux autres. Alors, ça ne va pas être comme ça à l'Assemblée nationale, parce qu'on voit bien qu'ils ont deux stratégies. Il y a la stratégie, disons, carrément révolutionnaire de la NUPES, parce qu'ils vont faire effectivement ce qu'ils ont fait, les batailles d'amendements, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez vu Marine Le Pen, et qu'elle aussi, elle n'a pas fait campagne non plus, on ne peut pas dire qu'elle ait fait...
Elle a fait une campagne sur le terrain.
En tout cas, là, elle a trouvé les bons mots, c'est-à-dire, j'écoute, je vais voir,
Parce que dans la crise politique dans laquelle nous sommes rentrés, la force qui a le vent en poupe,
Bah c'est elle. C'est elle. Bah oui. Alors, bah non, attention. Alors dès qu'on si. Le dit, on se fait attaquer sur les réseaux sociaux par les pauvres gars de la NUPES qui refusent de voir ça.
Allez, on fait une toute petite pause.
C'est la vérité, bien sûr. On est d'accord.
Olivier Gisbert, Julien Drey, on parle du RN dans un instant.
On est d'accord souvent.
Mais tout de suite, il est 18h30. Le fil info avec Jeanne Cancard.
Les députés LR ont choisi l'expérimenté Olivier Marleix pour prendre la tête du groupe à l'Assemblée nationale. À 51 ans, il a été élu aujourd'hui par 40 voix contre 20 pour l'unique autre candidat, Julien Dive. Un choix prudent pour garder le parti audible malgré son affaiblissement dans une assemblée où les débats s'annoncent musclés. 940 millions d'euros, c'est la somme que vont coûter les intempéries du début du mois. Entre le 2 et le 5 juin, elles ont occasionné plus de 250 000 sinistres à travers la France. Ce coût comprend les dégâts causés aux habitations, aux automobiles ou encore aux terres agricoles. Il avait participé à la découverte de la célèbre Australopithèque Lucie en 1974. Le paléontologue français Yves Coppens s'est décédé aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Le scientifique est mort des suites d'une longue maladie, a précisé son entourage.
On se retrouve dans un instant dans Punchline. Franz-Olivier Gisbert, Julien Drey, que peut dire Emmanuel Macron à 20h? On s'intéressera aussi au Rassemblement National, qui a fait son entrée en force à l'Assemblée nationale et qui veut devenir une force d'opposition crédible. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Franz-Olivier Gisbert, journaliste écrivain, avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Emmanuel Macron va s'exprimer à 20h. On suivra cette intervention en direct sur nos deux antennes. Que peut-il annoncer aux Français? Et surtout, qui va arbitrer son quinquennat à l'Assemblée nationale? Est-ce la NUPES? Est-ce les Républicains, les LR? Ou est-ce le Rassemblement national? Marine Le Pen a fait son entrée en force aujourd'hui à l'Assemblée avec ses 89 députés. Gauthier Lebret était sur place avec Sacha Robin. Gauthier, le Rassemblement national veut devenir une force d'opposition crédible.
Oui, le Rassemblement national veut être une opposition constructive à Emmanuel Macron, une opposition constructive, mais bien une opposition pas d'union nationale derrière le chef de l'État. Ce n'est pas à l'ordre du jour, nous a dit Marine Le Pen, et j'ai même posé la question au nouveau député Julien Odoul, ça l'a fait rigoler. Les députés du Rassemblement national sont donc arrivés en nombre ce matin au complet à 89. Ils ont d'abord fait une photo de famille et puis ils ont visité l'hémicycle et l'ensemble de l'Assemblée nationale. C'est une journée historique pour eux car ils n'ont pas eu de groupe depuis 1986 et proportionnelle et ils avaient 8 élus il y a 5 ans. Désormais, ils passent à 89. Ils ont donc multiplié le nombre d'élus par 11. Et demain, il y aura une grande journée, un séminaire pour former et bien justement les nouveaux au travail parlementaire. Et c'est bien sûr Marine Le Pen qui prendra la présidence du groupe RN à l'Assemblée.
Merci Gauthier Lebret avec Sacha Robin à l'Assemblée nationale. Franz-Olivier Gisbert, le RN va vraiment marquer des points, va cranter, va essayer d'incarner cette opposition crédible qu'il souhaite devenir.
Avant la coupure, là, on disait, enfin, on était absolument d'accord sur un point, c'est que la force qui progresse, qui monte,
c'est
à l'évidence le RN. Enfin, alors, dès qu'on rentre dans les querelles de chiffres, vous avez tous les gens de la NUPES qui deviennent fous, parce qu'ils sont un peu dans un monde virtuel. Un peu. Il y a quelque chose, il y a certains rapports entre le trumpisme, d'ailleurs, Trump, et Mélenchon, Trump aussi. C'est comment dire, des gens qui, d'ailleurs, ils ont l'impression qu'il est Premier ministre, et qu'il a gagné les élections. Non. Quand on regarde les chiffres, 131 députés, c'est très loin, par exemple, de ce que représentaient les différentes composantes de la NUPES en 2007, 2012. Enfin, c'est quand même, on est dans un autre registre, c'est-à-dire c'est une petite force qui commence à progresser.
Et le RN?
Le RN, lui, c'est le premier groupe d'opposition. 89 députés, la France insoumise est derrière, avec 79, elle a quand même 10 députés de moins, et on voit bien que la stratégie de Marine Le Pen, c'est une stratégie, oui, régalienne, c'est-à-dire, elle dit des choses, elle parle un peu comme un président, elle est dans la douceur, enfin, elle n'a pas du tout la stratégie des autres, et c'est effectivement une stratégie qui peut être payante à terme. Moi, je ne fais que constater. Alors après, dès que vous dites ça, ça, vous êtes accusé d'être partisan du Front National. Mais non, ou du Rassemblement National. Non, ça n'a rien à voir. C'est de l'analyse simple. C'est quand on regarde les chiffres, quand on regarde le fait qu'il n'y ait plus de fonds républicains, que les digues sont tombées, et sont tombées non pas, comme le dit le maire de Lyon, qui se moque du monde quand il dit que c'est Macron qui a fait voter Marine Le Pen. Enfin, ils en sont là. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Non, c'est qu'il y a des liens entre les deux extrêmes, et c'est un scénario.
Ils se font la courte échelle.
Oui, électoralement, pour l'instant. Alors peut-être pas l'Assemblée nationale, ça se verra trop, mais ils se le feront quand même, parce que Jean-Luc Mélenchon, enfin disons la NUPES, ils ont intérêt à avoir un Rassemblement national fort, ils ont intérêt à hystériser. Voilà, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Mais visiblement, pour l'instant, Marine Le Pen joue pas ce jeu-là.
Julien Drey, sur Rassemblement national.
Le problème, c'est que c'est vrai qu'on se fait insulter quand on dit ça. Marine Le Pen, elle a rompu avec ce qu'était son histoire de départ. Et dans toute cette campagne, j'ai essayé d'ailleurs à plusieurs reprises de le dire, mais quand j'avais commencé à dire « il n'y a pas de trait d'égalité entre Jean-Marine Le Pen et Marine Le Pen », toute une partie de la gauche m'avait dit « ça y est, complicité, machin ». Elle a démontré ça. Voilà, bah c'est oui. Et Éric Zemmour l'a parfaitement servi pour pouvoir faire cela. Maintenant, elle est dans une marche au pouvoir sous la forme d'une droite radicale dure qu'elle va essayer d'incarner. Et effectivement, pour ça, il ne faut pas qu'elle fasse peur. Il faut qu'elle rassure pour pouvoir progressivement ramasser tous les mécontents et être en fait... Son schéma, il est simple. C'est qu'elle pense qu'on va vers le désordre. Pas forcément le désordre que dans la rue, le désordre dans la vie. Et être, elle, la force d'autorité, de responsabilité qui vient en solution. C'est-à-dire, à un moment donné, on dit il faut quand même mettre de l'ordre là-dedans. Et elle, elle est la force qui a construit. C'est pour ça qu'elle a intérêt à ne pas déraper, à ne pas revenir en arrière, et essayer de donner cette sécurité pour ceux qui vont être en difficulté. Et de ce point de vue-là, la NUPES la sert. Parce qu'en passant son temps à crier à la montée du fascisme, à essayer de reproduire des schémas, les désigner, et à radicaliser y compris son discours, eh bien, elle peut se dédouaner de tout ça. Voilà. Alors après, la question qui est posée, l'autre question, c'est qu'est-ce que joue Jean-Luc Mélenchon ? Parce que c'est pas un fou, Jean-Luc Mélenchon. Jamais pensé, jamais sous-estimé, loin de là. Le problème, c'est qu'il y a une mutation idéologique de Jean-Luc Mélenchon.
Ah oui, bien sûr.
La mutation politique...
Vous étiez proche autrefois au Parti Socialiste, il était à la gauche du parti. Aujourd'hui, il n'est pas à la gauche du Parti Socialiste, il est à la gauche du Parti Communiste,
on peut dire presque. Il a dit lui-même, c'est ça qui est très important. Il a dit, j'ai réussi l'opération politique qui vise à faire que le centre de la gauche ne soit plus la social-démocratie, mais que ce soit l'extrême-gauche. Et lui, il joue la théorie du chaos. N'oubliez pas qu'il a écrit un livre là-dessus, et il joue la théorie du chaos, donc du désordre. Et c'est en ce sens-là que lui, il va faire le chahut à l'Assemblée nationale, parce que ça porte sa logique politique de chahut, de mobilisation sociale derrière, etc. et tout, et qu'elle, elle va être la force de raison.
François-Olivier Jospin.
De l'autre côté, il y a ce qu'on peut appeler les enjeux économiques. Et quand on regarde les choses de près, c'est assez effrayant. Vous savez que, par exemple, en ce moment, en rythme annuel, on est à 100 milliards de déficit du commerce extérieur. C'est-à-dire que la France est un pays, on le sait depuis longtemps, est un pays qui dépense beaucoup plus qu'elle produit. Et vous avez raison de le dire, c'est un record, c'est un événement considérable. On était déjà à 84,7 milliards l'année dernière, en 2021. Et vous avez des pays à côté de chez nous, comme par exemple l'Allemagne, qui était à 170 milliards d'excédents du commerce extérieur, l'Italie, qui soit disons le mouton noir de l'Europe, qui est à 60 milliards d'excédents. Nous, on a ce déficit. Derrière, vous avez la récession qui va arriver, forcément, c'est-à-dire avec l'augmentation des taux d'intérêt, qui est écrite, et ça ne va pas être seulement dans les prochains jours, ça sera aussi à la fin de l'année, vous verrez. Et puis surtout, la Banque centrale sera obligée avec la montée de l'inflation, qui est déjà autour qui est déjà relativement importante en France, et un peu plus, on s'approche des 5, mais regardez l'Allemagne qui est à 7, tout ça monte partout, et c'est le sujet. Et je pense que c'est là, la limite des deux forces d'opposition, c'est-à-dire à un moment donné aussi, les Français vont s'intéresser, et c'est peut-être le seul atout, à mes yeux, contrairement à Julien Drey, j'en vois pas beaucoup, mais c'est le seul atout de Macron. À un moment donné, les gens vont avoir peur, et c'est plus seulement le pouvoir d'achat, c'est par exemple un jour, si vous avez une attaque des marchés contre la France, qui est fragile parce qu'elle a un endettement dingue, puisqu'on s'est beaucoup endetté, on s'est goinfré, abreuvé à l'argent magique, et puis à l'endettement perpétuel. mondiale. Et là-dessus, Macron, on peut dire qu'il a, il a vraiment mis les, enfin comment dire, oui, il a mis les plein gaz sur le sur l'endettement. Et là-dessus, à un moment donné, on risque de payer tout ça avec une attaque des marchés. Donc, quand la situation devient grave économiquement, c'est vrai que on voit pas le Rassemblement national apporter des solutions crédibles. Et je pense que les cris d'orfraie de la NUPES aussi, ça ne va pas trop.
Donc il reste que les LR, si je vous écoute bien.
Non, il reste aussi Macron. Dans ce cas-là, les gens vont se retourner aussi vers lui en cherchant des solutions, parce que, et ça, c'est une échéance qui peut arriver d'ici six mois.
C'est peut-être aussi la carte que joue.
Honnêtement, faire attention.
Édouard Philippe, on va l'écouter dans un instant. Allez-y, Julien.
Non, sur honnêtement, faire attention, parce qu'aujourd'hui, nos partenaires, ils n'ont pas intérêt à ce que la France elle soit déstabilisée. Donc, ils seront prêts à faire encore des chèques pour faire que la France ne soit pas déstabilisée. Parce qu'ils ont bien compris que si la France est déstabilisée, c'est tout le dispositif européen.
L'Allemagne, bien sûr, elle va payer comme d'habitude, mais elle paye depuis longtemps, et à un moment donné, elle peut dire, oui, non, mais on arrête de payer.
On a aussi beaucoup payé pour la réunification, donc connaissez la discussion là-dessus.
Oui, bien sûr.
Bon, donc, moi, je ne crois pas qu'il y aura une attaque des marchés financiers suscitée par la Banque Centrale Européenne, etc.
Ah non, ça ne sera pas suscité par l'Europe, ça sera suscité par l'extérieur.
Oui, mais donc,
rappelez-vous la Grèce.
D'accord,
hein.
Mais
ça venait des États-Unis et de partout.
Mais la Grèce, elle n'était pas adossée à la Banque Centrale Européenne, et la Banque Centrale Européenne n'était pas prête à sauver, je vous rappelle, la Grèce. C'était ça toute la difficulté. Là, je crois qu'on n'est pas dans cette situation-là.
Pas encore.
Mais je pense, effectivement, que la situation économique va être un élément qui va jouer dans les rapports de force, dans les évolutions. Alors, la question qui est posée, c'est toujours comme ça dans les situations de crise. On appelle ça la course de vitesse. La courbe de vitesse est engagée entre soit la force d'ordre que représente Marine Le Pen, soit une tentative, une alternative politique qui peut se créer dans les semaines à venir, et qui soit une alternative qui marginalise la NUPES sur son côté d'extrême gauche et montre qu'il y a
le Rassemblement national
et le Rassemblement national.
Justement, c'est la carte que joue Édouard Philippe, qui lui préside le mouvement Horizon, proche d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il dit, il ne veut pas d'instabilité politique.
On peut appeler cet exercice coalition, grande coalition. Je suis très ouvert sur la sémantique, mais je crois que si l'on veut prendre le message adressé par les Français au sérieux, et si l'on ne veut pas laisser prospérer une instabilité politique qui, à mon sens, est dangereuse pour le pays, non pas parce qu'aujourd'hui la situation dans laquelle on serait périlleuse, mais parce que nous allons forcément avoir, à partir du mois prochain et dans les années qui viennent, des moments compliqués à vivre, je crois qu'il faut élaborer ce programme, cet accord minimal, mais cet accord qui permet d'avancer.
Pour l'instant, Julien Drey, personne n'en veut de cet accord minimal.
Oui, mais si on regarde bien...
Personne, tous les partis ont dit non.
Dans ce qui s'est passé dimanche, l'homme fort du macronisme désormais, c'est lui. Mm-hmm. Parce que c'est le seul pilier solide et qu'il a une cohérence. Il n'y a plus rien sinon. Et donc Macron va...
François Bayrou, vous l'écartez?
Il existe toujours,
mais il dit à peu près la même chose que... Bon, il y a une guerre de personnes, mais ils disent la même chose. Là, la tentative est intelligente, parce que j'appelle à une grande coalition, et c'est ceux qui ne veulent pas la coalition qui, à ce moment-là, portent la responsabilité. C'est en ce sens-là que je dis qu'ils les piègent, parce qu'à ce moment-là, ils ne jouent pas l'intérêt du pays, ils sont des forces politiques partisanes, connaissez tout le discours, etc. Donc lui, là, Macron pensait dans ses législatives qu'il allait marginaliser Édouard Philippe, qu'il allait lui laisser un petit groupe, mais qu'il pourrait pas, qu'il aurait les mains libres. Et là, maintenant, il se retrouve avec un Édouard Philippe qui va peser énormément. Mais la manière dont il présente les choses, on voit bien, c'est le plus habile
Ça serait un parfait Premier ministre.
D'un certain point de vue, ça serait un parfait Premier ministre.
Aujourd'hui, François Gisbert.
Oui, parce qu'il va tenter ça. Alors après, et en tous les cas, dans le discours politique, lui, il y a une cohérence. Alors est-ce qu'il va y arriver jusqu'au bout, ça
François Gisbert.
Vous avez raison, vous citiez Édouard Philippe comme Premier ministrable. Moi, dans mon édito, je cite d'autres noms. Il y a Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez, pourquoi pas Valérie Pécresse,
carrément à Matignon.
Non, c'est-à-dire que je pense qu'il a intérêt, ça c'est pas sûr qu'il le fasse, parce que ça correspond pas au personnage, il a intérêt à se retirer quelque temps. C'est-à-dire à laisser un Premier ministre fort, je le répète, gouverner. Et non pas. Et lui qui laisse le Premier ministre gouverner. Que ce ne soit pas son simple collaborateur
et
son porte-coton. Non, mais aussi, évidemment, s'il prend les coups, ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui décide. Il doit accepter ça. Vous savez, entre Pompidou, quand vous regardez l'histoire de la Ve République de près, entre Pompidou, Premier ministre, et De Gaulle, président, ce n'était pas simple tous les jours. Hein. Il y avait même parfois des hurlements. C'était compliqué, quoi. De Gaulle disait, mais ce type n'a pas de couilles, etc. Pourquoi il ne fait pas ça, enfin. Et c'était. Oui, tout ça, on le retrouve dans les textes, dans les mémoires de
dans
Jacques
Foccart.
Dans
votre livre.
Non, on le trouve dans les mémoires de Foccart. Il y a d'autres témoignages de ça. Et donc, il faut revenir à cette pratique. Parce que, aussi, le drame dans lequel on est aujourd'hui est dû à une espèce de dévoiement de la Ve République, avec un président qui fait tout et qui, finalement, ne fait rien, qui n'a même pas fait campagne, qui n'a même pas désigné quelqu'un pour faire campagne. Enfin, c'est la boutique de la Macronie, je suis désolé, Julien, elle n'était pas tenue. C'est-à-dire, il n'y avait personne dedans. Il
n'y
avait personne dedans. Et au fond, il paye ça au prix fort, parce qu'il s'est moqué du monde. Il s'est moqué aussi des Français.
Quel intérêt France aurait un Laurent Wauquiez ou, je ne sais pas, un Michel Barnier à aller jouer le pompier de service pour aider Emmanuel Macron et devenir Premier ministre? Aucun.
Excellente réserve. Non, parce que c'est la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un, a envie de travailler avec Emmanuel Macron aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr. Ne serait-ce qu'à cause de son caractère.
Bon. Non,
mais en même temps, c'est sûr que Bruno Le Maire, ou s'il veut rester dans sa sphère, ou Édouard Philippe, c'est peut-être plus facile. Mais il peut aussi faire l'abdication, une sorte de semi-abdication pour un certain temps, avec LR, mais je pense pas, effectivement, qu'il aura cette tentation-là.
Il n'arrivera pas
mais à les Mitterrand, avoir. Mitterrand, qui était quand même la subtilité même, et parfois la vie, le vice aussi, je pense qu'il aurait tenté un truc assez, assez courageux pour tenir pendant quelques temps, avant de revenir, dans 2 ans ou dans 3 ans. Cela étant, je répète, faut jamais l'oublier, Macron, il est dans son dernier mandat, et vous savez, c'est le syndrome du dernier mandat, c'est le syndrome de ce qu'on appelle aux États-Unis le canard boiteux, c'est-à-dire, après, pour le deuxième mandat, on commence à boiter assez vite.
Mais justement, d'un certain point de vue, c'est ça qui va lui permettre de trouver un Premier ministre, parce que dans les noms que vous citez, il y en a d'autres, mais il y a toute une série de candidats qui peuvent se dire, je fais Premier ministre 2 ans, je réussis à maintenir une certaine cohérence dans le pays et à tenir les choses.
Et je me lance ensuite.
Et au bout de 2 ans et demi, je me mets en retrait parce que je me prépare à la présidentielle. Et là, c'est en ce sens-là qu'Édouard Philippe joue un jeu important, ou que d'autres, dont on n'a pas les noms, mais qui se murmurent.
Qui, par exemple?
François Baroin.
Ah oui.
Vous le savez comme moi.
Oui, bien sûr.
Bon,
oui,
et d'autres,
les Républicains. Non, j'essaie de le faire dire parce que. Nicolas Sarkozy? Non.
Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il est tout le temps candidat. Mais d'un certain point de vue, lui aussi, il se dit ça. Voilà. Mais il y en a d'autres, y compris chez les socialistes, qui se disent potentiellement, on pourrait peut-être aider parce que, à un moment donné, on reviendra en force. Je suis pas convaincu, moi, que des anciens présidents de la République ne se disent pas que finalement, ils sont pas aussi à la retraite qu'on pouvait le penser.
J'entends François Hollande. Entre les lignes.
Aussi,
voilà. Donc,
Mais enfin, il a déjà refusé Cazeneuve, Je vois pas pourquoi il irait maintenant. Il a déjà refusé.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce sens-là, il est pas c'est là la nuance que j'ai avec François Olivier. Mais qui est une nuance toujours historique, c'est qu'il, lui, va trop vite. Bon, je ne suis pas convaincu que la Macronie soit morte. Voilà. Je ne dis pas qu'elle est en forme.
Je dis qu'elle est moribonde.
Voilà.
Mais elle peut renaître, on ne sait jamais. La politique, ça consiste aussi à ressusciter de temps en temps.
Mais il y a des rebonds possibles.
Oui,
et la question qui va être posée, c'est comment il va effectivement être en capacité, là, de retrouver le modèle Mitterrand. C'est-à-dire le Mitterrand qui se met
sur
le ventin et qui laisse les autres devant.
Aller à la bagarre.
Un peu d'humilité, de la patience.
Est-ce
qu'il a ces qualités-là, Macron?
C'est ce qu'a fait Mitterrand avec Michel Rocard ou avec d'autres. C'est-à-dire il mettait la petite piqûre et puis hop, il se disait, moi j'ai fait quelque chose, rien du tout.
Mais la vraie inquiétude des Français, c'est est-ce qu'il nous a vraiment compris? Est-ce qu'il a vraiment entendu le message qu'on lui a envoyé? Ou est-ce qu'il va encore faire de la politique, il va essayer de trianguler, etc. Est-ce qu'il va répondre aux aspirations profondes du pays,
c'est
aux 53% d'abstention et aux gens qui disent « nous, on s'en sort pas ».
C'est tellement vrai ce que vous dites, c'est-à-dire en fait, ils attendent quelqu'un qui règle les problèmes, qui s'occupe des problèmes,
de la sécurité,
les affaires.
Stade de France.
L'histoire du Stade de France, c'est quand même quelque chose d'inouï, c'est-à-dire il y a un truc énorme, quand on voit les images, les vidéos prises par les supporters britanniques, on voit très bien qu'ils ont pris plein la gueule, ils ont la tête en sang, on leur a tout volé, ils sont désespérés, ils courent partout là-dessus. Sur les grenades lacrymogènes des forces de police, et puis on dit que par la voie officielle, par la voie de Darmanin, qu'il va avoir quelques problèmes quand même, à mon avis, dans les semaines à venir, parce que forcément il y aura une commission d'enquête, surtout quand on sait que les vidéos du Stade de France ont disparu, et ça c'est fait sciemment, bien entendu, parce que on se disait quand même, il y aura peut-être une enquête après les élections, même pas on met des mouchoirs dessus, et ça c'est très mauvais, et sûr aussi, excusez-moi de reparler des l'économie. Mais sur l'économie, on a le sentiment que tout était repoussé à plus tard, qu'on mettait la poussière sous le tapis. Or, les échéances sont là. C'est comme un grand mur qui arrive, vous savez. Et de toute façon, on ne pourra pas passer à travers. Hein, parce que, et on pourra toujours mettre ça sur le dos de la guerre en Ukraine. Mais non aussi, parce que nous, on a un endettement qui n'a pas été provoqué par la guerre en Ukraine et qui est je suis désolé de le dire, un endettement de dingue. C'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et puis que rien n'a été fait en matière de réindustrialisation, on le voit avec les chiffres du commerce extérieur. Ce sont des urgences.
Alors, tu viendrais.
Non, il y a plusieurs... Est-ce qu'il a entendu le pays?
Est-ce qu'il a entendu le pays?
On va le voir
dans les semaines
à venir.
On va le voir là ce soir.
Ce soir, il va le dire, mais ça ne veut rien dire.
On va voir après dans les décisions. Il y a une restructuration de l'appareil d'État qui est nécessaire. Parce que, pour une fois, je vais faire un compliment à un journal qui, pourtant, je ne porte pas dans mon cœur. C'est Mediapart. Mais il y a une redoutable enquête que vient de faire Mediapart sur les événements du Stade de France qui démontre comment les choses ont été... Comment, progressivement, des hauts fonctionnaires de la police ont pris le pouvoir sur le maintien de l'ordre et ont fait n'importe quoi. Et l'enquête, c'est vraiment une des meilleures enquêtes que j'ai lues, pour une fois, qui démontre que deux hauts fonctionnaires, dont je ne donne pas les noms, mais vous les retrouverez dans l'enquête, ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire que même les policiers sur le terrain, et que ça, c'est le fruit de la manière dont ont été gérés, les gilets jaunes, etc. Donc, il y a, sur la sécurité, il y a maintenant un chantier énorme. Énorme, parce que c'est une question sous-jacente, etc.
Sur la maîtrise... sécurité, c'est quand même... Excusez-moi, juste, pardon, c'est un problème de sanctions aussi. Hein, c'est ça. C'est-à-dire le fait que, sous Macron, on essaye d'évacuer la sanction. Bon, il n'y a pas de sanction.
Il y a un problème qui reste toujours latent, qui est la question de la gestion des flux migratoires et de le sentiment qu'on reprend en main les choses. Et il va y avoir la question du pouvoir d'achat. Et derrière la question du pouvoir d'achat, la compétitivité de la France. Voilà. Alors, sur les questions économiques, d'un certain point de vue, c'est quand même là où il est le plus malin. Donc c'est pas ça où, d'après moi, il risque de sur ces choses-là, il risque de rebondir.
C'est exactement ce que je disais.
Voilà. Mais sur les questions qui sont des questions très qui galère, sont là, qu'il faut pas évacuer, parce que c'est on a l'impression que ça, dans les sondages, on dit ouais, mais finalement, mais elles sont là, elles rongent au quotidien, parce que c'est la vie quotidienne des Français, que ma fille quand elle sort, elle se fait attaquer, mon fils à l'école, il s'est fait voler, j'en ai assez, je comprends, j'ai l'impression que on est plus chez. C'est là-dessus qu'il va falloir répondre. Et là-dessus, il a été très faible.
Mais parce que pourquoi ?
Dernier mot,
il n'a pas gouverné, c'est-à-dire il voulait tenir tout et finalement il n'a pas fait ça. Et c'est le rôle d'un Premier ministre de gouverner et l'autorité, l'affaissement de l'autorité, vous savez très bien, ça commence par le haut et jusqu'en bas. Et surtout quand on vous dit pas de sanctions, c'est pas grave, allez hop, on circule, circuler, il n'y a rien à voir comme après le Stade de France, c'est extrêmement grave. Et ça, c'est pas un problème de la haute hiérarchie de la police, non. C'est un problème
global. À suivre.
C'est un problème d'État.
20h, rendez-vous sur CNews et sur Europa pour le discours des Emmanuel Macron, merci Julien Drey, merci François-Olivier Gisbert. Dans un instant, Christine Kelly avec son invité Éric Zemmour. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jeannette Bougrabe. Bonsoir Jeannette, essayiste. Bonsoir. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Bonsoir chère Laurence.
Et avec Amine El-Khatmi, essayiste aussi.
Bonsoir Laurence.
Amine, on va évoquer cette allocution d'Emmanuel Macron, ce sera à 20h. On va l'écouter en direct sur Europe 1, bien sûr, émission spéciale ensuite pour débriefer les grandes lignes de ce qu'aura dit le président de la République. Alors, est-ce que tout est possible dans cette allocution? On va écouter la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, interrogée sur ce que va dire le président.
Il faut s'attendre à des annonces ou simplement une philosophie globale.
Est-ce que la sortie de blocage est en vue?
On y travaille ardemment à sortir du blocage. Ce qu'on veut, c'est que cette Assemblée puisse travailler et qu'on puisse travailler pour les Français le plus rapidement possible. C'est toujours important que le président s'exprime quand il a des choses à dire et qu'il l'estime nécessaire.
Voilà, pour cette petite intervention assez rapide, Louis de Ragnel, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette allocution d'Emmanuel Macron ?
Bien, je pense que déjà, il faut qu'Emmanuel Macron qualifie ce qui est en train de se passer, qu'il explique en fait qu'on est dans une... Il y a une crise politique qui est liée au résultat de ces élections législatives qui étaient inattendues, pas d'un point de vue sondagier, qui étaient inattendues aussi d'un point de vue institutionnel. C'est-à-dire que, normalement, le président élu obtient une majorité ensuite aux élections législatives et il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Alors il y a plein d'événements, de faits politiques qui justifient ça, qui expliquent ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond. Ensuite, voilà, il va falloir qu'il explique comment il veut sortir de ce chaos institutionnel, cette petite crise de régime, mais en tout cas grosse crise politique. Et puis ensuite, il va falloir qu'il mette des mots, qu'il explique pourquoi, enfin, qu'il comprend le message que les Français ont envoyé. 89 députés Rassemblement National, c'est, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est inédit. Et donc il va falloir qu'il explique que s'il veut gouverner avec d'autres partis, d'autres groupes politiques, mmh. il suffit pas de le dire. Il faut qu'il explique. Et d'ailleurs, tous les chefs de parti qui ont été consultés expliquent. Nous, on n'est pas opposés, par principe, à gouverner ou à faire des choses avec Emmanuel Macron. En revanche, on veut savoir sur quoi. Et donc, Emmanuel Macron doit expliquer où est-ce qu'il veut nous emmener. Et ce n'est pas clair du tout. Depuis son élection présidentielle, on ne sait pas ce qu'il veut faire, quelles sont ses priorités. Et donc, là-dessus, il va falloir qu'il explique à la fois au personnel politique, à la représentation nationale, mais aussi aux Français, parce que maintenant, on a tous besoin de savoir ce qu'il compte faire. Voilà. Et ensuite, il va falloir... Enfin, tout ça, ça participe d'une clarification.
Donc, à mon avis, il faut qu'il sorte et urgente.
Du en même temps. Et je ne suis même pas certain que c'est cette allocution qui suffira. Va permettre de crever l'abcès. Ouais. Manifestement, Elisabeth Borne ne démissionnera pas, ni ce soir, ni demain matin, ni après-demain. Emmanuel Macron, en plus, s'envole, part pour une séquence de quasiment une semaine à l'étranger, où il fait juste un petit passage à Paris samedi prochain. Il n'aura pas le temps de gérer toutes ces histoires, sommet à Bruxelles, puis ensuite sommet de l'OTAN, sommet du G7 au Portugal et en Espagne. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est très important, d'abord et avant tout pour Emmanuel Macron, mais c'est aussi important pour nous.
Est-ce qu'il faut, Jeannette Bougrab, trouver les mots pour le dire, mais pas seulement, convaincre les Français qu'on va agir, qu'il va agir.
Je pense qu'il y a quand même, on oublie, enfin cette mise en scène dramatique est vraiment quelque peu insupportable. Les Français se sont exprimés, ils ont la majorité relative. On a déjà connu, dans le cadre de la Ve République, des périodes de cohabitation. On a connu des périodes de majorité relative. On parle souvent de la situation avec Michel Rocard. Certes, l'écart n'était pas tout à fait le même, mais quand même, c'était difficile. On oublie aussi que dans l'histoire constitutionnelle française, vous avez eu des régimes qui étaient des régimes où il y avait une très forte instabilité gouvernementale. On parlait en off tout à l'heure de la Troisième République. Toutes les grandes lois républicaines ont été adoptées sous la Troisième République, où la durée d'un gouvernement, c'était 11 mois. Sous la Quatrième République, c'était 6 mois. La Quatrième République a permis, en fait, le retour, la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale. C'est la sécurité sociale, c'est la réforme de la haute fonction publique, c'est la relance économique. Donc, l'idée que quelque part, c'est panique à bord parce qu'en gros, le Parlement ne sera pas une chambre d'enregistrement, c'est nier l'essence même de la démocratie et de la souveraineté. Et moi, ça me choque, ça. C'est ça que je trouve assez... de faire croire aux Français qu'en réalité, le pays ne sera plus gouvernable. La force de la Ve République, c'est un régime parlementaire rationalisé. C'est qu'on on ne voulait plus le général de Gaulle, qui est tombé qui a démissionné en janvier 1946, avait pensé avec Michel Debré un régime politique qui avait des verrous pour éviter qu'on a un nouveau juin 1940. Donc moi, je fais confiance dans les institutions et ça ne sert à rien, en réalité, de se dire que tout va paniquer,
c'est etc. au catastrophisme.
Et juste pour ajouter, cher Laurence, c'est que moi, je suis quand même assez surprise, c'est qu'on nous expliquait entre les deux tours que, de toute façon, l'Assemblée nationale n'en aurait rien à faire parce qu'il y allait y avoir le CNR. Alors déjà, on a oublié...
Le Conseil national de la refondation.
Voilà, que, en gros, c'était...
Les réunions ont été annulées cette semaine.
Ah bon, je suis surprise.
Non, mais il est en train de se vivre en ce moment, le CNR. Non, mais il n'y aura pas besoin de CNR.
Finissez, Jeannette, finissez.
Non, c'est que je trouve, vous comprenez. Comprenez bien que la démocratie parle, les Françaises et les Français ont parlé, et que de se dire que l'Assemblée nationale ne servirait à rien, qu'on a fait signer à l'ensemble des candidats République En Marche ou, pardonnez-moi, Renaissance, une sorte de contrat moral en disant qu'ils devaient voter les textes sans les discuter, et bien ça, c'est pas acceptable.
Alors, Amine Al-Khatmi, sur ce que peut dire Emmanuel Macron.
Au risque de faire sursauter Jeannette Bougrab, je crois précisément qu'on est en train d'atteindre les limites de la Ve République. On a une interprétation différente. Vous vous dites que la force... Moi, je crois qu'on est vraiment en train de voir exploser à la figure du pays les limites de la Ve République. Je pense qu'on est en train de payer des choix, l'inversion du calendrier électoral, le désintérêt, on le voit avec des niveaux d'abstention qui sont records. Enfin, on a quand même plus de la moitié du pays qui ne vient plus participer au scrutin. On avait jusqu'à cette élection des forces politiques qui étaient soutenues par des millions de Français qui étaient complètement sous-représentés à l'Assemblée nationale. On Madame Le Pen a désormais 89 députés. Il faut rappeler que sous la précédente législature, elle en avait 8. Elle n'avait même pas de groupe. Elle était dans les non-inscrits. Elle devait quémander à chaque fois pour poser une question une fois par mois lorsque le bureau de l'Assemblée consentait à bien vouloir le lui accorder. Donc je pense qu'on est au contraire complètement à bout de souffle de ce système et que si on ne s'engage pas vers vraiment une refonte profonde de notre vie démocratique, des crises comme celle-là, on va en vivre
bien d'autres. Une d'autres. Petite pause. On continue ce débat passionnant dans un instant à quelques encablures de l'allocution d'Emmanuel Macron à l'Élysée. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jeannette Bougrabe, avec Louis Dragnel d'Europe 1 et Amine El-Khatmi, essayiste. On va écouter Adrien Quatennens de la France Insoumise, c'est lui qui va diriger le groupe, qui va mener le leader, qui va être le leader de ce groupe de la France Insoumise. Il trouve incohérent l'idée de participer à une coalition, c'est pourtant ce que, en gros, a proposé Emmanuel Macron.
Nous ne sommes candidats à aucun arrangement, à aucune combine, ou à aucune participation à un gouvernement avec le président de la République pour la raison que notre diagnostic politique, et je lui ai dit, c'est qu'il y a besoin d'un gouvernement qui précisément fasse le contraire de sa politique, de celle qu'il a menée, et combatte les effets qu'elle a répandus. Donc je lui ai dit que ce serait totalement incohérent et improbable d'aucune manière que nous participions à ce type de coalition.
Jeannette Bougrabe, une coalition, une union nationale.
Non, mais moi je pense
c'est un parfum un peu suranné.
Non, mais moi, je pense que c'est intéressant, les coalitions. On voit bien comment l'Allemagne gouverne. La seule chose, c'est qu'avec Emmanuel Macron, c'est qu'il va leur dire, vous rentrez dans le gouvernement, mais par contre, vous devez voter d'un seul homme à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pas possible. Je pense que ce qui est le signal qui est donné par cette élection, c'est que ça ne peut plus être une chambre d'enregistrement, c'est la liberté de critiquer, d'avoir la possibilité d'avoir un droit d'initiative. Et je pense qu'il n'a pas compris ce qu'était une coalition gouvernementale. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on voit en Allemagne, quand on voit dans l'histoire constitutionnelle française, c'était les partis qui défaisaient les gouvernements. Là, il pense que fondamentalement, parce qu'il va prendre quelqu'un chez LR, quelqu'un au Parti communiste, quand il va faire passer ses réformes, ils vont voter sans rien dire. En réalité, c'est un blanc-seing qu'on va lui donner. Ben, c'est pas ça. Je pense que c'est cette étape-là, il est resté très jupitérien, c'est encore un pouvoir très vertical. Et il n'a pas entendu, par exemple, ce que lui avait proposé Édouard Philippe, d'avoir justement une coalition, ou encore Nicolas Sarkozy, quand il avait dit qu'il faut avoir un accord gouvernemental.
Mm-hmm. Louis Dragnel ?
J'entends ce que vous dites, mais en fait, Emmanuel Macron, dans les faits, ne veut pas de coalition. Et il sait très bien que la Ve République ne fonctionne pas pour permettre une coalition. Déjà, on n'a pas la culture du compromis. Et puis, de fait, le président de la République est au-dessus.
François Mitterrand, paix à son âme, a fait rentrer, il avait peut-être pour tuer le Parti communiste, mais il avait fait rentrer en son sein les radicaux, le Parti communiste. En 81, ça s'est fait.
Non, mais c'est une majorité de gauche. C'est plus de l'ouverture en rassemblant une famille politique
Sa famille politique,
large. Oui. Mais c'est pas une coalition. Parce que le système de coalition, où c'est l'élection des parlementaires qui permet la désignation du Premier ministre, en France, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le Premier ministre est désigné par le Président de la République. Et d'ailleurs, on a une Première ministre qui est la tête d'un groupe qui est la majorité, mais pas la majorité absolue. Moi, ce que je voulais répondre aussi à Amine El-Khatmi, je ne pense pas que ce soit la Ve République qui soit en cause. Je pense que là, pour le coup, et c'est ce qui est pointé du doigt, ce qui était pointé du doigt par les opposants d'Emmanuel Macron, et maintenant c'est même pointé du doigt à l'intérieur même de sa formation, c'est en fait que c'est l'échec politique d'Emmanuel Macron et de lui seul. Il a été élu il y a 6 semaines, il n'a rien fait.
Mais
il n'a
pas fait campagne. L'abstention, Louis, c'est pas l'échec, ça ne fait que monter depuis 40 ans. Emmanuel Macron qui
a détricoté la Constitution depuis 30 ans, il y a 30 ans, il y avait une meilleure participation, et plus on la détricote, moins il y a de participation. Donc je suis pas sûr que... réellement, et paradoxalement, je pense que la Ve République peut nous aider aujourd'hui, et peut aider Emmanuel Macron à s'en sortir, et heureusement qu'il y a la Ve République qui est là, parce que sinon, ça se transforme en ZAD.
J'ai entendu ça.
Mais bien sûr. Et du coup, ce qu'on observe, le problème, en fait, il est personnel. Ce sont les choix d'Emmanuel Macron. Quand on voit, regardez, en l'espace d'une journée, la Première ministre Elisabeth Borne est lâchée par les deux principales forces politiques autour d'Emmanuel Macron.
Modem.
le MoDem François Bayrou et Édouard Philippe. Donc, en fait, le problème du chaos vient également des choix d'Emmanuel Macron. Ce sont ces choix qui sont contestés. Et ce n'est pas le système de la Ve République. Je pense que vraiment, c'est tout le contraire.
Amine El-Ghatmi.
Mais je crois tout le contraire.
Vous persistez, vous signez.
Je n'en démordrai pas. Moi, je suis un militant de la Sixième République. D'ailleurs, je ne suis pas forcément attaché 5, 6, peu importe. L'essentiel, c'est ce qu'on y met. Mais je pense qu'on a un système politique qui est à bout de souffle. Et je crois que c'est une injustice que de pointer la responsabilité d'Emmanuel Macron. Il en a des responsabilités, il a commis des fautes, mais considérer par exemple que le niveau d'abstention, c'est la faute du président de la République, c'est nier la réalité d'une évolution et d'un désintérêt vis-à-vis des élections et vis-à-vis de la chose publique. Et juste, je termine, Louis Dragnel, cher Louis, l'idée d'une coalition, en gros, c'est quoi? C'est dire de Roussel à Ménard, dans le même gouvernement.
C'est un peu ça.
Il a reçu Monsieur Roussel hier, qui, de son propre aveu, je pense que c'est pas quelqu'un qui raconte des bêtises sur le perron de l'Élysée, a dit le président de la République m'a proposé d'un gouvernement d'union nationale. Manifestement, il en aurait parlé à Madame Le Pen, qui l'a elle-même confirmé. Le nom de Monsieur et de Madame Ménard court les rédactions et au-delà même des rédactions depuis plusieurs semaines comme étant des personnalités qui, compte tenu de leur positionnement et des mots relativement courtois qu'ils ont eu à l'égard du président, peuvent faire partie du dispositif. Je n'imagine pas, en tournant l'affaire dans tous les sens et même en faisant preuve d'excès d'imagination que je ne me connaîtrai pas à cette heure, comment on peut faire tenir, quand on connaît ce pays, dans le même gouvernement, M. Roussel et M. Ménard ou Mme Ménard en fonction.
Il ne va pas, parce que d'abord, le vrai problème de ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle, c'est l'espèce de grand écart qu'a fait le chef de l'État entre la France insoumise, NUPES, entre les deux tours, pour pouvoir diaboliser à outrance le parti d'extrême droite, etc. Donc aujourd'hui, c'est là où c'est quand même compliqué, parce qu'ils n'accepteront pas. La seule chose sur la Ve République, parce que je vais la défendre jusqu'au bout... C'est que les gens pensent que c'est autrefois à l'Assemblée nationale, à la Chambre du Conseil, on arrêtait les pendules en fait parce qu'on n'était pas capable de voter la loi de finances au 31 décembre. Aujourd'hui, en réalité, vous avez un certain nombre de mécanismes qui permettent en réalité de pouvoir adopter la loi de finances en temps et en heure pour permettre le fonctionnement de l'État. Vous avez aussi, c'est l'arme absolue, je le reconnais, qui a été restreinte par Nicolas Sarkozy, c'est l'article 49.3. Vous avez des procédures accélérées, vous avez un certain nombre de choses qu'on n'avait pas sous la 3e ou la 4e République. Donc on ne peut pas dire ça. Et la question, moi je pense sincèrement, c'est pas les institutions qui font les hommes, c'est les hommes qui font les institutions. Et moi je suis quand même très surprise de voir les hommes qui étaient sortis de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient connu la stabilité, la montée du fascisme dans l'entre-deux-guerres, ce qui était capable de faire, l'imagination de ces hommes-là. Aujourd'hui, moi je suis désolée, quand vous voyez des jeunes premiers de la classe ou droit sortis des promotions de grandes écoles qui arrivent à des fonctions sans avoir connu, des hautes fonctions, pardonnez-moi, sans avoir connu la moindre difficulté, il y a peut-être aussi un problème. Voilà.
Oui.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jeannette Bougrave et je trouve que votre démonstration est lumineuse.
Le duo marche bien.
Je voulais simplement répondre aussi à Amine El-Khatmi sur la responsabilité des. C'est pas du tout pour charger Emmanuel Macron. J'ai rien contre Emmanuel Macron. C'est simplement que lui, à chaque élection, il fait pas campagne. Et au dernier moment, il se réveille et il diabolise systématiquement. Et voilà, il y a le péril rouge et il y a le péril fasciste.
Vous avez raison.
Et donc, lui, apparaît, à chaque fois, la stratégie a très bien fonctionné.
Et ça a
bien
quitté, là.
Et à chaque fois, voilà, en gros, les modérés de droite et les modérés de gauche ont peur et se disent oh, « Attention, surtout pas, on va voter la valeur refuge, le vote utile, c'est Emmanuel Macron ». Sauf que ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que les modérés, en fait, il y a eu un effet du ressort cassé. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a trop joué avec ça, et du coup, les modérés, ils en ont eu ras-le-bol, et ils se sont dit « En fait, on en a marre de ça ». Et donc, soit ils ne sont pas allés voter, soit carrément, ils sont allés voter pour le RN ou pour la NUPES, et ça a donné ce résultat-là. Et,
non mais... Louis, juste 72% des électeurs de Macron n'ont pas voté en cas de duel RN-NUPES. 72%.
Exactement.
Bah, c'était, il aurait
je trouve
dû,
que c'est une bonne confirmation. Et j'ajoute aussi une autre chose, c'est que je pense que face à l'inaction, il faut quand même se dire que ça fait depuis le mois de février qu'on a un gouvernement, mais il ne se passe rien.
Qui ne gouverne pas.
Et les ministres, en tout cas certains, le reconnaissent. Et du coup, il y a des situations dramatiques qui sont survenues. Je pense à l'épisode du Stade de France. Et pourtant, à l'époque, je reconnais que je me suis trompé. Je pensais que ça n'aurait pas d'impact.
Qui a coûté quelques dizaines de députés à la majorité.
Et aujourd'hui, je reconnais que je pense m'être trompé. Et je pense que ça a beaucoup coûté à Emmanuel Macron. Et du coup, en fait, des modérés aussi se sont durcis parce qu'ils se sont dit, mais en fait, qui va parler? Qui va apporter une réponse à ça? Et donc, ça les a forcés, ça les a radicalisés dans leur vote, alors que c'était des gens qui n'étaient pas du tout radicalisés, qui n'avaient jamais voté extrême, et qui l'ont fait pour la première fois, pas pour s'amuser, ils l'ont fait parce qu'en fait, ils en avaient ras-le-bol, et qu'ils se sont dit, mais en fait, personne ne réagit, il ne se passe rien, donc je vais réagir dans mon vote. C'est pour ça que, je pense que la responsabilité de la situation dans laquelle on est, c'est Emmanuel Macron qui pensait pouvoir enjamber tous les scrutins. Là, ça n'a pas fonctionné. Donc, je pense que d'ailleurs, ce qu'il doit le travailler le plus, c'est de s'être trompé.
Je crois pas qu'il ait conscience. Je pense qu'il est capable.
De dire que c'est la faute des Français.
Non, il pense qu'il arrivera à convaincre et à séduire les personnes. C'est ce sentiment qu'on est capable de tout avoir, d'hyperpuissance.
Bah là, ce soir, c'est compliqué quand même.
Je ne suis pas totalement convaincue. Voilà.
Allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant. On va évoquer la stratégie de Marine Le Pen, qui a accueilli aujourd'hui les 88 députés RN, elle en plus, donc 89, et qui veut se dédiaboliser encore plus et surtout offrir une option de crédibilité. A tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec Jeannette Bougram, Louis de Ragnel, Amine El Khatmi. On va parler de la stratégie de Marine Le Pen. Elle s'est présentée aujourd'hui avec son groupe parlementaire conséquent, 89 députés au total à l'Assemblée nationale, avec une volonté de normalisation, d'apparaître très crédible, d'incarner une opposition crédible. On va écouter Marine Le Pen qui était émue de recevoir sous ses députés RN.
Je suis évidemment très émue ce matin de recevoir ces 88 députés du Rassemblement national qui vont faire un travail remarquable, qui vont vous étonner qui font leur entrée dans cette belle maison du peuple.
Vous voulez être constructif, vous ne voulez pas être dans l'opposition gratuite, mais constructif.
Parce que vous allez voir que nous allons abattre un travail très important avec une grande compétence, avec sérieux, c'est-à-dire à peu près différemment de ce que vous avez l'habitude de dire sur nous.
Est-ce que vous accepteriez de participer à un gouvernement d'union nationale?
Je pense que la situation ne le justifie pas.
Fermez le banc. Jeannette Bougrab.
Moi, je trouve que c'est vrai que la vraie surprise, parce qu'on parle beaucoup et l'ARCOM a bien dit le temps de parole qui avait été consacré ou les sujets sur la NUPES, c'est eux. C'est quand même incroyable parce que moi, je me souviens encore qu'on disait, mais elle a pris 15 jours de vacances, elle ne fait pas campagne. On expliquait qu'elle ne voulait pas accéder au pouvoir parce qu'elle ne voulait pas faire alliance avec Reconquête, etc. Et donc, je trouve que là-dessus, il n'empêche qu'elle a plus de parlementaires que la France insoumise. Donc, ça dit quand même beaucoup.
Et que les LR.
Et ça dit beaucoup sur la situation de la France. Et moi, ce qui me gêne, c'est que on parle beaucoup de tels candidats, de la NUPES, on se dit, oh là là, c'est une véritable réussite, ils ont réussi un coup. Mais en réalité, il se passe quelque chose en France et on refuse de le voir. Et il y a quand même une déconnexion entre le monde médiatique, fait, et la réalité. Parce que, sincèrement, personne, on peut être sincère, personne autour de la table pensait qu'elle aurait ce score-là. Et donc, elle a tenu, elle s'est fait trahir par sa nièce. Et certains, pendant la campagne présidentielle, sont partis. On a expliqué qu'elle était nulle, incompétente, etc. Il n'empêche que la véritable victoire, c'est elle qui l'a.
Amine El Khatmi.
Je suis d'accord, pour le coup, vous voyez, on rééquilibre, je suis d'accord avec Jeannette, c'est une victoire éclatante. Souvenir quand même que dans les projections, il n'y a pas un seul institut qui lui donnait...
Un groupe parlementaire, 25
entre 20,
max,
25, ouais. Allez, peut-être 30 pour les... Mais 89, avec des départements entiers, toutes les circonscriptions du Var, 4 circonscriptions sur 5 dans le Vaucluse, une implantation dans des régions dont on disait que jamais le RN ne réussirait, quand on pense qu'il y a 16 députés RN en Occitanie, la région
de Madame Delga, qui est une terre
de Monsieur Castex, les Pyrénées-Orientales.
Et de Monsieur Castex, une terre radicale socialiste, patrie de Jaurès, Rassemblement National. Les gens auraient levé les yeux au ciel et ils se sont implantés dans ces territoires-là. Et donc, évidemment que pour elle, c'est un succès. Et il y a un enjeu maintenant, c'est de montrer pendant 5 ans qu'il y a un groupe sérieux, que les gens vont bien se tenir. Et d'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, ça peut paraître relevé du détail, mais ils sont arrivés tous bien habillés, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Et donc, il va y avoir un enjeu pour eux, c'est de montrer qu'ils sont aptes à gouverner. Parce que le principal reproche, l'un des principaux reproches qui était fait à Marine Le Pen, notamment lors de l'élection présidentielle, c'est de dire, mais Madame Le Pen, très bien votre programme, mais avec qui vous allez gouverner ? On ne vous connaît pas de hauts fonctionnaires qui vous soutiennent, vous n'avez pas d'anciens ministres ou de gens dont on peut imaginer qu'ils puissent diriger l'État à vos côtés, donc vous êtes une femme seule avec un parti où il n'y a pas de gens capables de gouverner le pays. Ben là, elle va pouvoir... je ne le souhaite pas, parce que pour moi, c'est évidemment, ce serait une catastrophe que Marine Le Pen arrive à la tête du pays, mais sans doute que pour elle, l'enjeu, c'est de réussir ce défi.
Juste pour compléter le propos, il faut savoir que lorsque François Mitterrand, sachant qu'il allait perdre les élections 86 au profit de la droite, avait introduit la proportionnelle intégrale. Même là, elle fait mieux avec un scrutin majoritaire à 2 tours qui est censé en fait éliminer les petits partis que en 86. Donc là-dessus, moi j'avoue que je m'inquiète beaucoup de la situation qu'on a en France, parce que ça, à force de ne pas en tenir compte.
Si je puis me permettre,
la gauche porte
une responsabilité dans l'élection d'un certain nombre d'élus du Rassemblement National. Lorsque vous avez eu un candidat NUPES, socialiste, Europe Écologie Les Verts, il a quasiment systématiquement battu le Rassemblement National. Lorsque vous aviez un LFI, un indigéniste, quelqu'un qui a tenu des propos contre la police, par exemple, vous aviez des taux de vote blanc et d'abstention et de vote nul qui étaient supérieurs à la moyenne nationale. À Avignon, par exemple, dans la première circonscription du Vaucluse, le candidat du RN l'emporte de 600 voix et il y a 2600 votes blancs et nuls. Ça veut dire que des électeurs de gauche, de droite, du centre, n'ont pas voulu voter RN, mais n'ont pas non plus voulu voter pour un candidat LFI extrémiste, indigéniste, racialiste, tout ce que vous voulez. Donc, la gauche porte sa responsabilité.
Louis, sur la stratégie de Marine Le Pen.
C'est par rapport à ce que disait Jeannette Bougrabe sur le fait que, effectivement, ce scrutin n'était pas favorable au RN depuis je ne sais pas combien d'années. Et c'est pour ça que le RN demandait la proportionnelle pour être plus représenté. Vous disiez très justement, encore une fois, que c'est parce que ce n'était pas favorable aux petits partis. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le RN est devenu un grand parti. Et ce qu'on n'a pas voulu voir, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant quand on regarde les cartes. Le RN obtient souvent beaucoup de députés là où ils ont des élus locaux. Et ce qui montre que la nouvelle génération d'élus locaux du RN n'a rien à voir pour le coup avec la génération qui d'ailleurs maintenant est partie, où il y a eu beaucoup d'accusations de détournement de fonds, il y a quand même des malversations, il y a eu beaucoup de condamnations. La nouvelle génération, en fait, c'est vraiment l'art des petits pas, c'est-à-dire qu'ils font bien leur travail, ils essayent de s'occuper des gens, globalement ils votent les textes. Assez peu d'idéologie, là je parle plutôt au niveau local, dans les municipalités. Et du coup, en fait, c'est ce qu'ils appellent la stratégie de la goutte d'eau. Donc un endroit, il y a un élu municipal et puis il rayonne autour, les gens trouvent que bon bah finalement c'est pas si mal au niveau local et tout d'un coup, soudainement, aux législatives on voit 3-4 députés autour d'une ville où il y avait juste un ou deux conseillers municipaux qui étaient très actifs et ça voilà, c'est quelque chose, un vrai enseignement que je trouve intéressant. La deuxième chose, je réponds à votre question du coup directement.
Parce qu'on a beaucoup parlé de leur travail un peu dilettante à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils ont travaillé ? Non.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils étaient un peu dilettantes. Ce qui est également vrai, c'est que quand vous êtes à 7, globalement, vous pouvez pas faire grand-chose. Et le système est tel qu'en France, jusqu'à aujourd'hui, quand vous étiez dans l'opposition, ça servait pas à grand-chose quand en face, il y avait une majorité absolue. Mais quand on regarde le détail des textes des députés RN, regardez ce qu'ils ont fait lors de la dernière législature, donc précédent mandat d'Emmanuel Macron, eh bien, on se rend compte qu'ils ont voté quand même pas mal d'amendements, pas mal de textes. Alors, je sais pas s'ils sont impliqués quand on regarde sur le site internet de l'Assemblée nationale et ce qui montre qu'à l'époque ça ne gênait absolument personne dans le gouvernement d'Emmanuel Macron de voir un texte voté avec une voix de Emmanuel Ménard ou une voix de Sébastien Chenu. Donc, je pense que dans les prochaines semaines, les gens vont revenir aussi un tout petit peu à la raison. Emmanuel Macron, globalement, a plutôt intérêt à ne pas trop idéologiser le fait qu'il a besoin des voix du RN pour faire passer un certain nombre de textes. C'est Éric Woerth qui le rappelait hier soir. Depuis toujours, dès qu'il y a un texte qui est voté, eh bien, normalement, le ministre va essayer de convaincre des parlementaires qui ne sont pas de son groupe politique pour essayer d'avoir leur vote. Et c'est ce que Emmanuel Macron va devoir faire. Mais il ne faut pas le faire faut le faire à bas bruit, il faut le faire discrètement. Et ça peut fonctionner.
En un mot,
je pense que elle a récolté en fait le fait de ne pas transiger avec ses idées et de moi, ce qui m'a frappé pendant ces dernières semaines, c'est les gens qui partent d'un camp à un autre. Mmh. Elle a tenu et elle a dit, bah, ceux qui partent et on. Et voilà. Et donc, elle a tenu. Et là, j'avoue.
Et elle récolte les fruits de de ce cap qu'elle a tenu. Oui, merci à tous les trois d'avoir participé à Punchline. Vous ne bougez pas. Dans un instant, sur Europe 1, on écoutera l'allocution du président Macron en direct depuis l'Élysée. Alexandre Demers sera là avec ses invités pour vous faire vivre cette allocution présidentielle. Bonne soirée sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.